Encore se la pète.
Bonjour, bonne année, bonne santé.
Bonne année.
Ouais, bonne année, Dus.
Meilleurs vœux. Bon santé, année. Tout ça.
Allez. Bon, ah non, on verra ça après, tant pis. Zou. Alors, nous sommes le samedi 6, nous sommes l'année 2007, c'est le 6 janvier. Que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui?
Maintenant.
Le supplément week-end avec l'actu BD, cinéma, DVD, télévision et Galette des Rois.
Et suivi d'eux.
Ça, c'est du sport à 13h, les résultats en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie.
Et ensuite
à 15h du mix avec je ne sais pas quoi, ça doit être du reggae. Normalement, là, 17h Big Bang, 18h Vie d'ordure, 19h on est chez nous, 20h la Cétéro Expérience, 21h30 Stay Tuned. Vous écoutez FMR sur 89,1 MHz. Nous sommes en direct de midi à 5h du matin et on continue sur www.radio-fmr.net.
FMR. FMR, la French Independent Radio Label since 1981.
Allez, on l'a fait péter le cidre. Allez hop. Vas-y Thomas, tu peux commencer à couper la galette. Il va pas y arriver, je te parie qu'il va pas y arriver. Mais si. Allez, du sport.
Ah oui.
Bravo, yeah,
bravo. Allez, meilleurs vœux à vous qui nous écoutez, qui nous faites plaisir. C'est bientôt la 100e, on en est à l'émission numéro 97. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Et là, on a dit, bon, allez, on va se foutre un truc qui pète un peu là de suite. Allons-y alors. En guise de générique. Easy Roller featuring Sharon Brown. Référence à James, bien sûr. Wad Runner.
I know.
crois que je vais avoir du mal à mixer avec la couronne sur le casque.
Entre les dents.
Et non, mais franchement, en plus, sans regarder, quoi.
Attends, on va terminer de mâcher quand même.
Ouais, non. On a eu 7 minutes hein, quand même pour le faire.
Ouais, mais beaucoup de galettes. Hein.
Elle est pas mauvaise cette galette. Et puis,
mais il faut dire un peu ce que c'était la fève.
C'est vrai que c'est assez rigolo. Alors, c'est
véritable.
Enfin, c'est une petite fève faite en. Faite en porcelaine, mais c'est de plus en plus ridicule les objets qui sont représentés. Il y avait les sacs de farine et maintenant c'est carrément c'est le savon de Marseille parfum lavande dans son emballage.
Véritable lavande 100% végétale.
Je vois pas le rapport quand même dans le gâteau. C'est bon, c'est personnel.
Là, tu l'as gagné. Tiens, je te la rends.
Merci. On va peut-être y aller avec une année 2007 qui s'annonce un petit peu moins drôle puisqu'on a quand même trois mauvaises nouvelles qui arrivent coup sur coup. D'abord, il y a l'Écho des Savanes, l'un des derniers magazines de prépublication de BD et vaches laitières qui est en stand-by par Lagardère Presse. Le titre appartient théoriquement à Albin Michel, mais c'est Lagardère qui le publiait. Comme ça, c'est les accords qu'il faisait. Et donc Lagardère a décidé d'arrêter parce que ça fait que 55 000 exemplaires vendus chaque mois en kiosque. Bah voyons, c'est quand même un très joli chiffre, quoi.
Ouais, parce que il faut se rappeler quand même.
C'est vrai que c'est un très mauvais chiffre pour un film, pour un bouquin de cul, mais quand même.
Ouais, non, mais si tu, si faut relativiser parce qu'il faut savoir qu'au début, l'Écho des Savanes, bon, c'était, ça avait été plus ou moins une scission en fait. Hein, c'était plusieurs dessinateurs qui en avaient marre d'être sous la houlette justement. Des grandes maisons d'édition via les hebdomadaires ou via les éditions d'albums.
Et, Mandrika qu'on a reçu.
Mandrika, il y avait
Gottlieb et la troisième
c'est Florence Lestac.
Gagné. Ouais, c'est ça en plus.
Voilà, donc qui ont créé ce magazine qui à l'époque était plus ou moins autoproduit, on va dire. Enfin bon, ils avaient quand même déjà au départ le soutien hein, des maisons d'édition de tout le bordel quoi. Mmh. Et ça faisait quand même des scores assez honorables et ça a permis justement à une nouvelle vague de jeunes dessinateurs qui n'avaient pas l'opportunité de le faire, eh ben justement d'être publié quoi, d'être continué à publier dans.
C'était surtout le lancement du magazine d'auteur en France avec dans la lignée eh bien il y a
après,
eu
après il y a eu les copies il y a eu la suivre toute voilà. La série quoi.
Il y a eu l'arrivée de Fluide Glacial, il y a
Fluide
eu aussi
Métal Hurlant.
Voilà, c'est toute cette lignée-là qui avait peu été lancée.
Ouais, mais c'était le premier en fait, hein, c'était le premier parce qu'avant, bon, quand on avait des mensuels, quand on avait des hebdos, exception faite de Charlie Mensuel, qui était également un petit outsider à part, quoi. Mais c'était
ça a été vite repris
les grandes
par Dargo,
maisons. C'était Dargo, c'était Pilote, c'était Tintin, c'était Spirou, donc c'était les grosses maisons, donc il n'y avait rien à voir, hein, c'était ça ou la porte, et c'est pour ça que bon, ces dessinateurs à l'époque voulaient encore plus de liberté éditoriale, plus de liberté scénaristique, hein, parce que bon, ils débordaient l'idée, c'était vraiment une période où ça foisonnait à fond les manettes, et ça leur a permis justement de pouvoir éditer, de pouvoir être un petit peu plus large, plus délirant, on va dire. Hein, parce que bon, bah, il y avait également les romans photos, enfin bon, il y avait une part plus belle à la BD éclatée et à différents styles justement qui allaient naître. Hein, la BD des années 80, hein, les nouveaux rois des années 80, bref, tout ça, ben, on a vu ça
du
dans l'Écho des Savanes.
Du sport, tu vas être content, tu vas hurler de rire. C'est à moi, elle me prend un coup de fil.
Il
hein.
Y avait un appel de Docteur Strange qui nous dit que je me suis grave planté sur.
C'était
Claire Bretéché. Voilà.
Oh punaise. Moi j'ai validé ça.
Enfin bon. Comme j'ai pas pu remplacer par quelqu'un d'autre, je me suis dit, bon, bah.
La deuxième mauvaise nouvelle, c'est Jean Giraud qui va dessiner le prochain 13. C'est une information qui est parue dans l'édition belge de l'Express, le VIF. Et la grande question, c'est de savoir si Jean Giraud va signer donc le prochain album de 13, qui est toujours scénarisé par Jean Vohame, sous la signature Jean Giraud ou sous Moebius. Dans le deuxième cas, il faudra bien évidemment reclassifier tous les 13 comme étant non pas du polar, mais de la science-fiction.
Ouais.
La troisième mauvaise nouvelle, c'est le CSA qui vient d'autoriser et de valider les bandeaux annonçant les programmes manière TF1, à condition que le bandeau soit statique, qu'il ne met que le nom du programme à suivre, éventuellement sa signalétique et sous réserve de l'accord des ayants droit. C'est un peu comme le logo d'une chaîne, c'est pour ça qu'il n'y a pas le logo des chaînes sur les films, mais qu'on les voit sur les séries télé, puisque sur les séries télé, les chaînes ont tous les droits, ils peuvent les recouper, faire ce que tu veux. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que bientôt vous aurez droit à ça. Radio Éphémère, vous écoutez Supplément Week-end, à suivre, ça c'est du sport. Bon, pas de panique, tant qu'on ne voit pas la pub, hein, ça arrivera prochainement, de toute façon en France, hein, ça va finir par arriver sous pression et tout ça. Donc je rappelle que M6 s'est fait sanctionner parce qu'il faisait ça, mais c'était un bandeau défilant. C'était un mouvement, donc c'était considéré comme une interruption. Par contre, TF1 qui fait un mouvement de bandeau vertical avec un effet miroir du plus bel effet optique, eh ben non, ça n'est pas une interruption de programme et ça ne perturbe pas la compréhension de l'œuvre.
Oui, c'est pour ça que des fois, de l'éclairage, vu l'éclairage qu'ils foutent, quand ils foutent ce bandeau, tu vois l'image à l'envers reflet, quoi, tu sais. Mais l'image qui est diffusée, pas seulement l'image du bandeau, tu vois également l'image principale en reflet à l'intérieur.
Quand c'est mal foutu, quoi. Ils ont fait un effet esthétique, c'est oh et marrant sur DigiViewer on peut mettre cet effet, attends on va le rajouter, c'est trop génial.
Oui tout le monde qui fait ça en ce moment, et sachant que nous on fait plus fort encore que annoncer la future émission dans un bandeau, nous on mixe les deux émissions puisqu'il y a du sport qui fait les revues de presse de revues sportives dans notre émission à
exactement
nous.
Voilà, et du sport a donc une quatrième mauvaise nouvelle, c'est que la programmation musicale à partir de 13h sera exclusivement consacrée à Jack.
Non, avant, on va s'en mettre avant quand même.
Tu m'étonnes. Ça va, je prends la suite, j'étais juste en train d'avaler le gâteau là.
Ah non, mais.
Il est 12h15 sur l'horloge atomique de la poubelle des radios, c'est le supplément week-end et on va entamer les sorties bande dessinée. Oui, c'est une ambiance que je mets, oui, je sais. Il s'agit du deuxième tome sur trois de Matière Fantôme, une série scénarisée par Hugues Fléchard et dessinée par Stéphane Douet. Le deuxième tome s'appelle Beta, puisque en fait c'est les trois premières lettres grecques, alpha, bêta et gamma, qui suivent les titres en fait. Et l'action se passe dans un immense navire spatial, le vaisseau monde, où l'espèce humaine est fortement contrôlée par une religion au dogme tyrannique. Celle qu'un humain, le premier homme à avoir été enfanté, par le vaisseau, qu'il a su utiliser la technologie pour créer sa propre espèce qui peuple désormais le vaisseau, une religion qui l'a transformé en tyrannie. La procréation est strictement interdite, les relations entre les représentants de chaque genre scrupuleusement surveillées par les régulateurs. Mais alors que le premier homme est mort, de plus en plus d'hommes et de femmes succombent aux désirs charnels, et même le régulateur Silenzio III commence à éprouver ce sentiment interdit qu'est l'amour. En cherchant un contrevenant, un ouvrier du nom de Horé, Silenzio va en plus découvrir que le vaisseau monde s'agrandit spontanément, que d'immenses pièces grandes comme des villes peuvent apparaître au fond des chambres au détour d'une galerie. Alors donc que l'initiateur de cette religion tyrannique vient de rendre l'âme, le vaisseau mue et un nouvel univers s'ouvre aux humains. Mais qu'en feront-ils ? Les influences et les ressemblances sautent immédiatement à l'esprit au fur et à mesure qu'on lit ce deuxième tome. Cela soit urbicante, bien évidemment, pour cette architecture qui commence à s'agrandir. Certaines bandes dessinées d'Andreas pour leur atmosphère et l'usage malicieux de la technologie et des décors, et un peu le côté terrifiant. Et le roman de Frank Herbert, le programme Conscience, pour ce vaisseau à l'intelligence artificielle devenu fou et qui se prend pour Dieu. Mais ce triptyque a sa propre viabilité, décrit un univers, un vaisseau monde plein de promesses. Sur un scénario de Hugues Fléchard, un dessin de Stéphane Douet, Matière Fantôme, tome 2 sur 3, bêta, et c'est chez Dupuis. J'avais oublié de le noter, je crois que c'est dans la collection Empreinte. Oui, c'est ça ?
Oui, oui. Okay. Tout à fait, tu as raison, Xavier.
Yo, yo. Le peuple des endormis, un scénario de Frédéric Richaud et un dessin de Didier Tronchet. C'est donc le deuxième tome et qui signe en fait la fin, puisque c'est en deux tomes, donc le deuxième tome du peuple des endormis dans la collection Air Libre chez Dupuis. On va faire un petit peu d'histoire. Non, vous endormez pas de suite, j'ai pas commencé. En 1671, le roi Soleil, Louis XIV, ne s'intéresse pas encore suffisamment au rayonnement du royaume de France hors d'Europe. Pratiquement pas de comptoirs commerçants, peu de colonies, et un roi qui désintéressé de ces choses, plutôt intéressé pour l'instant à construire son autoritarisme, l'État, c'est moi. Mais il laisse par là même le champ libre aux navires marchands portugais et hollandais dans l'espoir d'y intéresser le roi. Et son ministre Colbert, en plus de doper les constructions navales et l'économie, envoie régulièrement des expéditions scientifiques. C'est dans ce contexte que les protagonistes de l'histoire, le marquis de Dunant et l'apprenti empailleur Jean, capturent les grands animaux de l'Afrique noire. Le marquis a une vision d'un grand zoo d'animaux exotiques qu'il offrirait au roi, histoire de bien se faire voir bien sûr, et qui trouverait naturellement sa place dans le grand château de Versailles. Quant à Jean, il a repris les métiers de son père, mort dans l'espoir de percer le secret de Palerme. La recette pour obtenir des animaux « naturalisés », entre guillemets, qui tiennent avec le temps. Et s'il a suivi le marquis en Afrique, c'est pour dessiner les animaux dans leur milieu naturel. Un superbe duo de Candide qui sillonne les vastes terres tribales, se présentant devant les rois de chaque village en tant qu'ambassadeur du roi de France. Quelque chose aussi décalé que de porter une perruque poudrée dans la chaleur et la moiteur des journées africaines. Et des nuits aussi. Parce que figurez-vous que le marquis a donné beaucoup de plaisir aux dames sous l'as, deux dames de très bonne compagnie, ce qui a eu le don de mettre dans une rage noire et meurtrière le gouverneur de la colonie. C'est ainsi que le marquis de Dunant, qui d'habitude met les animaux sauvages sur son tableau de chasse, est poursuivi par une sorte de bête furieuse, prompte à manier le pistolet et le couteau, avec lequel il compte faire des parties du marquis indélicat un trophée à sa convenance. Je cite, « lui arracher la tête, lui couper la queue et les boules avec. La civilisation a raffinement que les guerres tribales des nègres n'ont rien à envier. » Jean, lui, narre dans son journal ce drôle de safari entre deux esquisses et ne peut chasser de son esprit cette négresse qu'il a rencontrée, Coris, aux formes généreuses. Une païenne, soit, de couleur d'ébène, mais qui lui a ouvert les portes de son cœur et qui connaîtrait le secret du peuple des endormis. Servi par des couleurs chaudes, le dessin caricatural de Tronchet arrive à donner une présence étonnante aux steppes de l'Afrique. Le scénario de Frédéric Richaud est un vrai bonheur à lire, assez divertissant. La supposée naïveté nègre, la cruauté des blancs, finalement on croirait lire du Montaigne. Le peuple des endormis, le deuxième tome et la fin donc de cette histoire complète parue dans la collection Air Libre chez Dupuis par Frédéric Richaud au scénario et sur un dessin de Didier Tronchet. Détenu 042 est une série qui est scénarisée et principalement dessinée par Yoa Kotegawa. Le deuxième tome vient d'arriver dans la collection Big Kana, chez Kana. Et le détenu 042, c'est un condamné à mort, coupable de 7 meurtres particulièrement ignobles, puisqu'il a boxé à mort 7 personnes pour le compte de la mafia. Il a été choisi pour une expérience pilote, lui greffer dans le crâne une bombe qui explosera à la moindre pensée meurtrière ou violente. Suivi par une équipe de scientifiques du ministère de la Justice, il officie comme jardinier et homme à tout faire dans un lycée. Puisque c'est une expérience pilote, où l'on espère peut-être se dire « Oh, au Japon, peut-être qu'on pourrait se passer de la peine capitale ». Au fur et à mesure que le temps passe, les expérimentateurs perdent le contrôle des événements, la vision simple et manichéenne des officiels se fissure, et le désir de vengeance des familles perd de sa fureur. Le détenu 042 n'est pas un meurtrier froid qu'on a décrit, et tout le monde est touché par son humanité, ce au point de l'appeler par son vrai nom, Tajima Ryohei. La lycéenne aveugle Yume est heureuse de converser avec cet homme qui ne la rejette pas à cause de son handicap. Et un professeur de braille, Ayano n'est pas indifférent à son charme. Et même le chef des expérimentations, le professeur Shiina, semble avoir le béguin pour lui. Quand débarque le grand-père d'une des victimes, celui-ci menace Tajima. Mais en fait, ce proche endeuillé veut pardonner à sa manière en lui faisant les reproches qu'il souhaitait faire à son petit-fils défunt. Un drôle de deuil et de pardon. Le détenu 042, privé de son nom et piégé dans sa tête, est devenu handicapé, incapable d'exprimer des sentiments un peu forts qui pourraient faire exploser la bombe dans sa tête. Mais c'est la justice japonaise qui se retrouve piégée dans l'affaire. La peine de mort est elle-même une bombe qui peut exploser par son barbarisme, sa radicalité et l'inefficacité de son soi-disant rôle préventif. Mais c'est vrai que quand on a présenté dans cette émission le premier tome de cette série, on était en plein dans les 25 ans de l'abolition de la peine de mort en France. Et là, la chronique du deuxième tome se fait encore une fois bousculer par l'actualité. Figurez-vous que jeudi dernier, suite au fiasco de la pendaison de Saddam Hussein, le président George Walker Bush a demandé aux autorités irakiennes que les co-accusés du dictateur déchu soient exécutés de manière humaine et dans des conditions dignes. Je vous jure que quand j'ai entendu ça en VO, la télécommande m'a un peu échappé des mains. Oh, il est vrai que dans la Constitution des États-Unis, j'ai vérifié, il est strictement interdit d'infliger des traitements cruels et inhumains. Pourtant, ce pays applique allègrement la peine capitale, sauf que pour exécuter de manière humaine, ils ont par exemple créé l'injection létale. Pas plus tard que le mois dernier, mon cher Georges, en Floride, état gouverné par ton frère Joab, a été exécuté Angel Nieves Diaz. Au lieu qu'il expire sans douleur et de manière humaine, entre guillemets, l'injection s'est mal passée et il a expiré au bout d'une demi-heure d'horribles souffrances qui ont même révolté la famille de sa victime. Excusez-moi, cher George Walker Bush, mais je ne vois pas en quoi la peine capitale est respectueuse de la dignité humaine. Ah oui, j'oubliais. Un témoignage clé pourrait innocenter Feu Diaz du meurtre qui lui a valu le sien. La peine de mort est terrible, car elle est irrémédiable. Elle a en plus l'inconvénient d'assassiner des innocents. Et si vous voulez lire ça, en bande dessinée, Détenu 042, le tome 2 de Yua Kotegawa vient d'être traduit en français dans la collection Big Kana, chez Kana. Et il y a la régie publicitaire qui me dit que c'est l'heure de la publicité. Alors, bien évidemment, je m'exécute. C'était la publicité. Donc
Radio Éphémère, vous écoutez Supplément Week-end. À suivre, ça c'est du sport.
Qui va bien évidemment parler donc d'un film qu'il a bien voulu voir, non ? Un film qui respire la joie de vivre. Pas trop, non ? Bon, alors on va pas mettre James Bond, on va mettre un truc larmoyant, je crois.
Oh, tu peux mettre James Brown quand même.
Si, mais James Brown.
Après. Quand j'aurai fini avec ce disque. Vas-y.
Alors, on attaque là ?
Ouais.
Et le jingle ?
Oh, t'es chiant.
Faut tout lui dire, hein.
Un minimum d'habillage, quoi.
Merde. On a un bandeau et tout maintenant.
La chronique de Thomas vous est présentée.
Radio Éphémère, vous écoutez Supplément Week-end à suivre. Ça, c'est du sport.
Oh, ils font chier ces bandeaux de pub là. Merde.
Et encore, heureusement qu'ils mettent pas sous-titrage Antiope, page 666. Et n'oubliez pas de regarder les pubs si vous appuyez sur le bouton rouge, active et tout le reste. Hein, tu vois.
Alors, maintenant, nous allons parler d'un film qu'on va dire qui a fait l'objet d'une sortie technique. Pourtant, il y a des bons acteurs et tout. Bon, c'est un film américain. Tiens, c'est bizarre, c'est pas polonais sous-titré en turc. Et il s'agit de The Fountain. Et c'est le nouveau film de Darren Aronofsky. Le nom est un peu accouché dehors, mais vous avez peut-être vu Pi et Requiem for a Dream. C'est lui qui les a fait. Alors, ce nouveau film, on comprend au casting Hugh Jackman. On le présente plus. Raquel Weiss. On l'avait vu dans The Constant Gardener. Et il me semble aussi dans les deux épisodes de La Momie.
Mais elle a chopé l'Oscar, je crois, que pour le Constant Gardener.
Ah, il me semble, oui. C'est pas faux. Et également, Ellen Burstyn qui avait chopé l'Oscar pour le film précédent d'Aronofsky, Requiem for a Dream. Et là, elle joue à nouveau dans le nouvel opus de Darren Aronofsky. Le script, c'est un peu tortueux et je vais pas tout vous raconter non plus. Il s'agit d'un couple dont la femme est atteinte d'une tumeur cancéreuse et le mari essaie tout ce qui est dans son pouvoir pour la sauver car il est scientifique. Et il fait des expériences au sein de laboratoire pour justement guérir le cancer du cerveau en faisant des expériences sur des singes. Parallèlement à ça, sa femme, un peu isolée chez elle puisqu'il passe tout son temps dans son labo, en fait écrit un bouquin qui s'appelle The Fountain et qui se passe en Nouvelle-Espagne, en Amérique du Sud, chez les Mayas, où un conquistador est envoyé par sa reine pour vaincre l'Inquisition et choper l'arbre de vie qui est adulé par les Mayas, protégé par une étoile mourante qui s'appelle Xibalba. En même temps, on a aussi une troisième histoire développée dans le film qui se passe dans le futur, en l'an 2500. C'est le même mec dans le futur qui est tout seul dans une bulle dans l'espace en train de flotter à la rencontre de cette étoile morte Xibalba en présence seulement de l'arbre de vie fusionné avec sa femme. Alors, ce qui est intéressant dans le film, alors il y a certains qui pourront être rebutés. Moi personnellement, j'aime pas trop les films où il y a les gens, les couples, les personnes qui pleurent à tout bout de champ. Oh, tu vas mourir, il faut profiter du temps présent. Voilà. Bon là, il faut
carpe diem.
Voilà, il faut pas se voiler la face. Il pleure, il chiale, ça chiale, mais pendant tout le film. Ça, c'est un peu gavant. Bah, après, bon, effectivement, c'est une performance d'acteur. Et puis, c'est pas que
de
ça.
De chialer.
Bah oui, c'est toujours les rôles à Oscar,
bah,
tu sais
bien.
Bah oui,
quand même. Ouais.
Mais quand même, c'est pas que ça, parce que le réalisateur a truffé sa mise en scène de clin d'œil, de gimmick de mise en scène qui relie chaque époque. Par exemple, on voit le conquistador s'élancer vers l'horizon dans une construction en symétrie vers le haut. On le voit le chercheur en même plan avec sa bagnole. On le voit le mec tout seul à la fin dans sa bulle. Il y a plein de petits visuels qui se renvoient les uns les autres. On le voit beaucoup. On voit beaucoup des plans très 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 serrés sur les qui mettent en valeur les épidermes, qui mettent en valeur les les regards, etc. Et par exemple, le mec qui embrasse sur la nuque sa femme, on voit vraiment les poils de la nuque de la femme qui s'hérissent. Ensuite, on a un plan où il s'adresse à l'arbre et l'arbre est muni d'un épiderme et c'est sa femme qui lui répond. C'est plein de petits éléments comme ça qui se renvoient les uns les autres et qu'on comprend et donc dont la globalité en fait saute aux yeux à la fin. Et ce qu'il y a d'énorme dans le film, c'est que c'est un peu longué parce que ça dure 1h38. Tu dis tiens, c'est un film métaphysique à la Kubrick, comment ça se fait qu'il dure qu'1h38? À la fin de l'1h38, tu en croirais que c'est passé 2h30. C'est très très lent, mais c'est super beau. C'est dans des tons ocre un peu dorés, et puis voilà, c'est pour ceux qui aiment bien se torturer un peu les méninges. Il y a plein de métaphores, il y a plein de comparaisons des figures de style comme ça qui sont très 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 intéressantes. Et pour ceux qui sont un peu qui s'intéressent un peu à l'histoire des Mayas et tout, ils peuvent aller voir la symbolique, etc. Bon, c'est super super intéressant. Parallèlement à ça, il y a une BD qui a été faite, scénarisée par Aronofsky. Ce qu'il faut savoir, c'est que Aronofsky, après avoir fait Requiem for a Dream et Pi, qui étaient des petits films avec des budgets de films indépendants, a écrit un scénario pour un film de studio qui s'appelait The Fountain. Et il avait réuni une équipe de 200 personnes, etc. Le tournage avait, je crois, la pré-prod avait commencé. Et il a dû annoncer à toute son équipe que le tournage était annulé car le principal financier s'était retiré, le studio. Il s'est dit, tiens, c'est dommage, il va falloir...
Est-ce que tu sais pourquoi ?
Eh ben peut-être que tu vas me l'apprendre.
Ouais, c'est parce qu'au départ la pré-production avait budgété 60 millions, mais la présence d'un top acteur, à savoir Brad Pitt qui était dedans et tout, parce que The Fountain, ça fait quand même 6 ans que ça dure, quoi. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Brad Pitt à un moment s'est désisté, il avait pas le temps, je sais pas, ouais. De ce fait, le retrait de Brad Pitt, ça a carrément coupé le budget en 3, je crois, quoi. Et à partir de cela, il a dû refaire son film, il a dû réécrire une partie de The Fountain qui au départ devait être vachement plus riche, aller vachement plus loin. Et là, il a fait un film un petit peu plus concis, 1h38, qui au départ, je crois, il devait durer plus de 2h.
Alors, plus riche et plus loin, c'est pas sûr, parce que, enfin, plus riche peut-être au niveau du scénar, mais là, c'est vraiment, il est retourné à l'écriture d'un vrai film indépendant, avec de nombreuses ellipses.
Il dit qu'il y a des scènes qu'il aurait vachement développées, genre, les castagnes avec les Mayas, les trucs comme ça, genre, les gros trucs, bien baston, quoi, alors que là, bon, il y en a pour 3 minutes, et puis, ciao, quoi.
Ben, en fait, ce qui est de rigolo, c'est que le film s'ouvre sur la période des Mayas, et on voit Hugh Jackman, donc, Thomas, qui s'appelle comme ça dans le film, en train d'affronter les Mayas. Ils sont 3, c'est-à-dire qu'il a 2 hommes avec lui, et tu te dis c'est quoi ça, ils vont à l'assaut des Mayas à 3. Il dit je préfère mourir que d'abandonner, je combats pour l'Espagne et pour ma reine, etc., venez avec moi. Et puis là on est plus dans un Indiana Jones du pauvre, tu vois. Après il affronte une espèce de prêtre avec une figure mais énorme, tellement en plus il a une diction qui frappe beaucoup, et avec une espèce de gros bâton à clous enflammé, tu dis c'est quoi, voilà. Et après on s'aperçoit pourquoi ils étaient que 3, parce que tous les autres se sont fait défourailler la gueule entre eux, ils sont entretués et tout. Et justement tu vois vraiment que il y a une ambition, il y a un côté expérimental, mais ils sont pas plombés par un souffle épique qui aurait eu s'il y avait eu 40 champs de bataille, etc. Et ça c'est peut-être plus intéressant. En plus il y a des ellipses, t'es obligé de raccorder chaque scène entre elles, et à mon avis c'est peut-être plus intéressant. Alors ce qu'a fait Aronofsky quand Brad Pitt s'est désisté, c'est qu'il s'est dit tiens c'est con qu'on n'en fasse pas quelque chose. Donc il est allé voir Vertigo, il a dit tiens j'ai retranscrit mon scénario pour de la BD. Et Vertigo a dit ouais ok, on va te présenter un dessinateur qui fait des graphic novels qui s'appelle Kent Williams. Alors du sport, si ça t'intéresse, je te prête la BD, tu regardes.
Yep.
Tu vas voir ça, c'est ça tombait par terre. Aronofsky a obtenu le feu vert, il a rencontré Kent Williams qui a été emballé par l'idée de collaborer avec lui. Parallèlement à ça, Aronofsky, donc comme disait du sport, il a réécrit son scénario et il a annoncé à toute l'équipe que c'était reparti. Et ils ont fait un pari entre eux, entre le dessinateur et l'équipe du film, pour savoir qui c'est qui allait mener le projet le plus vite. Et en fait, les deux projets sont arrivés à terme en même temps. Donc voilà. Par contre, la BD, ceux qui ont lu la BD un peu avant, parce qu'elle est, je sais qu'elle est disponible dans les magasins bien avant que le film sorte en ce moment. Il recommandait de voir le film avant parce que ça vous dévoile pas mal. Là, l'histoire est la même, hein, quasiment. La fin diffère un petit peu. La fin est sujette à beaucoup d'interprétations possibles. Donc, est-ce que le futur, c'est l'imagination? Voilà, donc il y a pas mal de parties dans le film qui sont, on sait pas si c'est de l'imaginaire, si c'est fantasmé, si c'est réel, est-ce que effectivement est-ce qu'il a trouvé le secret de l'arbre de vie pour être immortel, est-ce qu'il s'imagine dans le futur, on sait pas trop. C'est ça qui est intéressant. La BD est splendide, c'est, tu prends ta claque, t'as envie de peindre.
Ah oui, mais c'est un...
Ah oui,
c'est énorme, c'est énorme. Alors qu'au bout d'un moment, Vertigo, ils avaient DC Comics qui est derrière Vertigo, ils avaient dit bon, on va arrêter Vertigo parce qu'il n'y a pas de place finalement pour la bande dessinée d'auteurs et arty aux États-Unis. Et là, enfoiré, c'est impressionnant. Ah, graphiquement, c'est.
On voit les coulures de peinture. Il a travaillé visiblement à l'acrylique. On voit les nervures du papier. On voit le papier qui gondole sous l'effet des aquarelles. C'est vraiment très joli. Les bordures des cadres, c'est noir. C'est pas tracé à la règle. C'est au pinceau. Ça déborde sur le côté blanc. Enfin, c'est vraiment très libre. Et le film, voilà, il a des longueurs. C'est un Le rythme est très 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 lent, ça chale dans tous les coins, mais c'est aussi fascinant. La bande-annonce, c'est là que tu te rends compte que la bande-annonce est énorme. C'est-à-dire que le mec qui a fait la bande-annonce, c'est un tueur. Il a pris tous les éléments forts du film et il a souligné les tics de mise en scène, ce que je disais, les parallélismes et tout. Il a tout compris, le mec. Dans la bande-annonce, il a mis l'accent sur ça. Et tu peux. La bande-annonce ne dévoile rien du film et elle donne super envie de le voir. Et quand tu vois le film, tu as envie de revoir la bande-annonce après. C'est une relecture du film quasiment. C'est, les deux travaux, les trois avec la BD sont absolument dantesques. La BD, c'est paru chez Albin Michel. Donc,
Non. Moi, je vois Emmanuel Proust.
Emmanuel Proust, oui, pardon. C'était un prénom et un nom, voilà. Emmanuel Proust, dessin de Kent Williams, scénario de Darren Aronofsky, le film réalisé par Darren Aronofsky avec Hugh Jackman, Rachel Weisz et Len Burstein, casting d'acteurs assez réduit. Et voilà, donc il est encore disponible. Il a fait l'objet d'une sortie technique, c'est-à-dire que si vous voulez le voir à Toulouse, il est uniquement au Mega CGR à l'ABC, peut-être à l'Utopia bientôt, mais n'allez pas dans les gros multiplex.
Je crois
c'est pas
la
peine.
À l'Utopia, il me semble.
Ah bon,
il me semble,
ah. Bon,
on verra de toute façon,
je crois qu'il fait ça.
Voilà, sur les sites commerciaux qui donnent les programmes et les journaux de la presse quotidienne.
Side of the record. I'm
Midi 43 sur la poubelle des radios, et c'est The Orb, Mickey Mars,
Radio FMR, écoutez Supplément Weekend, à suivre, ça c'est du sport.
Off, bien évidemment, qui allait très très bien dessus, et de suite, comme promis, allez. Ça commence à m'énerver ce bandeau derrière.
Shade. Oh God, it's a raid.
Shove this, shove.
Cut out the light and call the law. Cut out the light and call the law. Standing over there, the devil's son-in-law.
Donc maintenant Thomas, tu sais, donc c'est vraiment James derrière qui joue, voilà.
Oui, non, parce que c'est bien parce qu'on a plein d'explications hors antenne et ouais. Quand ça devient intéressant, c'est le micro en fait.
Non, non, mais bon, à la télé ils l'ont dit, hein, ils ont dit le principal. Hein, et bon, moi ce qui m'a vachement marqué quand même, hein, c'est le fait qu'ils foutent la dépouille à l'Apollo Théâtre à New York.
Là où il devait jouer d'ailleurs.
Non, là, il devait jouer, mais enfin c'est là où, il a un petit peu été révélé musicalement, discographiquement on va dire. Hein, la fameuse sortie, la sortie fameuse de cet album Live at Apollo, hein, qui il a vraiment révélé au grand public. Hein, c'était un des premiers disques vraiment construits. C'était un live en plus, quoi. Donc ça retranscrivait bien, hein, ce qu'il avait déjà retranscrit. Il avait déjà connu le succès avant. Hein, ses premiers succès, c'est Please 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 Me. Ensuite, parce qu'il a commencé sa carrière dans les années 50, ce mec-là, ce bonhomme, il a fait plusieurs parties de plusieurs groupes vocaux, d'abord comme choriste, hein, pas comme chanteur principal, c'est normal. Et ensuite, il a commencé sa carrière avec Please 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 Me. Ensuite, il a fait les trucs les plus fameux qu'on connaît, hein, les six sirupeuses, It's a Man Man World, les trucs comme ça, quoi. Et il a eu une deuxième partie de sa carrière après l'Apollo Théâtre, si tu veux, vers la fin des années 60, où là il a joué le registre un peu plus funky au niveau musical, c'est-à-dire un tempo un peu plus accéléré, dû au fait justement qu'il avait ce fameux batteur là qui a un petit peu dynamisé le rythme, un rythme qu'il avait d'ailleurs chopé auprès des musiciens de Fela en Afrique, hein,
le
truc du funky drummer et tout, le titre du morceau là, le funky drummer, c'est un truc qui était joué par Tony Allen, le musicien de Fela, et donc ils avaient écouté ça, ils avaient dit putain, bon beat et tout, on va se le faire et tout. Et ensuite, dans les années 70, bon bah il a un petit peu délaissé, il s'est dit bon bah j'ai assez bossé quand même. Il faut savoir que dans les années 60, il s'appelait, appelait The Hardest Working Man de Show Business, mais c'était vrai parce que en fait il était tout le temps en tournée, et dans les années de 60 à 65, il passait 350 par jour par an à faire des concerts, 350 soit 360. Il y avait une année où il était monté à 360, il n'y avait eu que 5 jours, il n'avait pas donné de concert, et plusieurs jours il avait donné plusieurs concerts de suite, hein, il donnait un concert en matinée, puis un concert en soirée, enfin bon, de la folie quoi.
Plus ses enregistrements en même temps. Ouais, et, tout, ouais, ça, c'est...
Non, et après bon, c'est bon, on va pas dire la déchéance, hein, parce qu'il a toujours continué à produire des disques. Bon, à chaque fois c'était plus ou moins des nouvelles versions de ses anciens tubes, Sex Machine, Mother Popcorn, toute la bande, et renouveau un petit peu dans les années 80 grâce aux morceaux de la bande originale
Rocky 4,
Living in America. Et à sa participation également avec Africa Mambata au morceau fameux, là, le morceau Peace, Love and Unity and Having Fun. Et ensuite à sa participation avec un groupe de hip-hop qui s'appelait Soul Sonic Force, me semble-t-il. Ils avaient fait un album qui était pas trop dégueulasse. Hein. Et ensuite, il s'est surtout fait repérer par la jeune génération comme étant un consommeur ardu de drogue, genre PCP, qui lui a valu un séjour en prison. Il a tabassé plusieurs de ses femmes. Enfin bon, voilà.
Et une interview. Et une interview célèbre pour Canal+.
Ouais, rubrique fait divers, très très chargée.
Voilà, où il était en prison et il a été interviewé. Où il a été interviewé au moment où il devait consulter un dentiste, et comme par hasard dans le cabinet du dentiste il y avait un piano. Celle-là était restée célèbre de blague. Ça a été un tendage de perche pour reprendre le fil normal de ce programme.
Bon, on parle de quoi à présent là ? Bon, bah alors, pour les auditeurs et les auditrices, faut savoir que bon, maintenant on va rester avec James Brown jusqu'à 14h. Hein. Tranquille. Il va y avoir que ça. De toute façon, même pendant le sport et tout, tranquille. Bon, j'attaque avec la télé alors direct.
Ah bah oui.
Et puis bon, on repoussera la semaine prochaine hein, les histoires de dessins animés pour les petits, les films de Noël pour les petits là. Toute la série là, comme moi je suis allé voir les trois, hein, Piccolo, Happy Feet et Sweet City. Vous allez voir Happy Feet la semaine prochaine.
Oh, allez, on va essayer. Ouais.
Ah non, mais il est très très bien, il est génial, donc il faut aller le voir. Hein. Si s'il y en a un à voir sur les trois, c'est celui-là. Hein, de toute façon, hein, il casse la baraque hein, à fond les manettes. Bon, on va parler un petit peu de télé. Hein, j'avais emmené une cassette super. Écoute, je te prête, tu regardes.
DVD, d'accord.
Un DVD, voilà. Tu regardes et tout. Tu peux même le regarder avec ta copine, il n'y a pas de honte. Hein, de toute façon. Hein,
ouais, ça a l'air très documentaire.
Mais, c'est très très bien. Et puis on en reparlera la semaine prochaine. Alors. Hein.
C'est de genre femme en prison, c'est ça ?
C'est ça, exactement. C'est un des fleurons du genre.
Mmh, des livres aussi, des scènes de sadisme raffinées. Oh là, mais
absolument.
Ça t'intéresse dans cette histoire.
Voilà.
Je suis sûr que Sabrina va être très intéressée avec le rouleau à pâtisserie.
Dans une prison où règne le vice, réussira-t-elle à s'échapper de ce lieu de cruauté ? Ou finira-t-elle comme beaucoup d'autres pour succomber aux sévices endurés ?
Ah oui. Si, c'est très très bien.
Merci du sport.
Tournez aux Philippines. Hein. Comme tous les films de ce genre. Alors des séries, autant tu vois, on a l'impression d'être, d'avoir basculé dans un autre monde. Il a suffi du passage au Nouvel An. Hein, avant Nouvel An, c'était la télé de remplissage avec vraiment des programmes.
Attends, ouais. Collection Femmes en cage.
Absolument, absolument, absolument. Et pas cher en plus. Et juste avant les fêtes, avec le remplissage habituel des téléfilms de Noël et des téléfilms animaliers
et les mini rois Salomon et vas-y que je te
et les quand même quelques super productions intéressantes hein, de KPDP voire un petit peu fantastique, mais c'est du déjà vu, alors que passé Nouvel An d'un seul coup, eh bien on se retrouve avec de l'inédit à fond les manettes. À fond les manettes. Bon, la plupart, ce sont des séries déjà connues, ce sont de nouvelles saisons qui démarrent, mais il y a quand même quelques petites séries inédites dans le lot. Déjà, je commence très fort et très lourd avec RIS, la saison 2, à partir de jeudi prochain sur TF1.
Bah, 10 contre 1, 40.
Michael, quand même.
Je parie 40.
40% de part de marché ?
Ouais.
Ah, ok, d'accord.
En PDL.
Pari tenu ?
Ah là, je suis. C'est les scores qu'ils ont fait pour la première saison, c'était la moyenne. Hein. Donc là, c'est évident que ça va cartonner, même si le scénario est.
Ouais, tu crois ? Bon,
pitoyable.
On va regarder ce qu'il y a en face alors, quoi.
Tu sais que sur ma Freebox maintenant, j'ai eu un choc avant-hier. J'ai mis la une en pensant tomber sur la mosaïque, et à la place, je suis tombé sur le best-of de Koé. Maintenant, il y a la une et la six. C'est
Mais attends.
Oula.
C'est dur. Des fois, c'est dur. Hein. Bon, ça va être en concurrence avec Hollywood Homicide, hein, le film avec Harrison Ford et Josh Hartnett.
Yeah, bien.
Hein, bon, et 24 heures chrono sur Canal aussi, quoi. Quand même. Quoi, tu vois, et Missing disparu sans laisser de place, dont je vais parler un peu plus tard. En préambule, avant de vous parler, bon, j'ai commencé avec RIS, mais je feuilletais le programme de samedi, tu vois, d'aujourd'hui, cet après-midi. Tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir me taper à la télé après l'émission, tu vois, rien foutre sur mon canapé.
Et regarder les restes du monde.
En train de mater, et je me suis rendu compte que vraiment les programmateurs des chaînes se foutent pas mal de la gueule du client. Ça, c'est clair, on le savait déjà depuis le départ. Hein. C'est à partir du moment où on peut caser des moments où on peut mettre de la pub, c'est bon quoi. Il faut meubler ce qu'il y a entre la pub, tu vois quoi. C'est ça le plus
c'est le principe
pour un programmateur.
Non, mais c'est le principe d'une chaîne commerciale, hein, mon cher ami. C'est de tenir les gens jusqu'à la prochaine coupure de pub. Hein,
voilà. Et donc là, ils sont pas cassés la nénette, hein, parce que souvent, ils disposent des mêmes catalogues, hein, il y a pas de problème. Hein, on peut diffuser à bon moment. Et là, il se trouve que cet après-midi, on va pouvoir voir sur deux chaînes différentes le même téléfilm pratiquement à la même heure. Je crois qu'il y a 20 minutes de décalage.
Ah, c'est pas
le téléfilm, c'est Une fille aux commandes, un téléfilm canadien de Robert Tinel de 1998 avec Elisha Cuthbert, Bob Brandon, Gordon Masten et Joe Mantegna à 17h05 cet après-midi sur RTL9. Mais 25 minutes plus tôt sur TF6, on aura le même téléfilm.
Ah bon? J'allais parier une chaîne du groupe AB.
Absolument pas. Et TF6 et RTL9.
Parce que moi, une fois, j'ai eu
téléfilm cet après-midi.
Parce que moi, une fois, j'ai eu droit au même téléfilm pourri, RTL9, AB1 et CinéFX. En même temps!
Ah oui, c'est
en
ça.
En même temps.
Mais vu le catalogue qu'ils ont, tu m'étonnes.
Mais alors là, que ça soit en même temps sur TF6. Ah là 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 là.
Alors, RIS, revenons-y, Zillon. Avec Jean-Pierre Michael dans le rôle du patron. C'est le chef de la police scientifique hein, quand même. C'est la voix de Brad Pitt et de Ben Affleck également hein, pour pas mal de films. Donc c'est normal, c'est pour ça qu'on le connaît. Non, c'est pas uniquement pour ça qu'on le connaît. Donc début de la saison 2 avec deux épisodes. Bon, il y a également Laurent Olmedo, Barbara Cabrita dans l'équipe. Les deux épisodes de jeudi prochain, c'est Rencontre et un point de non-retour. Sinon, on va continuer à louer les efforts de France 3 pour diffuser des séries haut de gamme, on va dire, bonne, intéressante d'un point de vue, enfin de pas mal de points de vue. Et France 3 poursuit son petit chemin hein, comme ça. Elle nous avait fait le coup avec The Closer. Et qui c'est qui va remplacer The Closer? Ce n'est pas une nouveauté, on en a déjà parlé, ça a déjà été diffusé sur Canal+, sur Canal Genie et sur une autre chaîne, me semble-t-il. C'est Boomtown, la série créée par Graham Yost et John Avnet.
Énorme.
John Avnet, tu sais, le beignet de tomates vertes, hein, le film. Et donc c'est Boomtown qui va remplacer The Closer dans la programmation de France 3 le mardi en prime time à partir de 20h50. Alors, petit rappel des fêtes quand même sur Boomtown, c'est une série qui vaut mieux, c'est pas la peine de la regarder franchement à la suite, hein, mais il y a quand même quelques éléments, on va dire, d'ordre personnel, de vie personnelle, qui sont un petit peu linéaires. Mais c'est pas une obligation absolue. Le principe qui est original dans Boomtown, hein, c'est un principe qui a été un petit peu initié dans le film de Kurosawa, Rashomon. Là, point de vue différent, mise en image, point de vue de chaque personnage. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal, il y a une tapée de personnages principaux, donc et dans chaque épisode, on est susceptible d'avoir le point de vue de chacun de ses protagonistes, avec le procureur joué par Neil McDonough, qu'on a vu dans Babylon 5, dans NIH également, hein, qui sera diffusé sur M6 d'ailleurs cet après-midi à partir de 14h, hein, NIH. Il y a également les deux détectives, alors la paire jouée par Donnie Wahlberg et Michael T. Williamson. Donnie Wahlberg qu'on peut voir dans Saw 2 actuellement.
C'est le frère de Mark.
Et c'est le frère de Mark hein, aussi. Hein. Il y a également les flics en uniforme. Alors il y a Jason Gedrick, lui qu'on a pu voir dans Aigle de Fer. Aigle de Fer qui est rediffusé vendredi prochain sur RTL9 à 20h45. Aigle de Fer avec Lou Gossett Jr. et avec David Suchet. Attention, c'est pas n'importe quoi quand même. On le voit également dans Murder One, dans pas mal de téléfilms. Bref, Jason Gedrick, c'est un bon acteur, on va dire, hein, de télé quoi. Il y a Gary Bassabara également qu'on a vu dans Brooklyn Sos. Il y a le reporter également, Lana Paria, une reporter et une secouriste jouée par Nina Garbiras. Donc on peut voir effectivement ce qui se passe du point de vue de tous ces différents personnages. C'est vachement bien foutu, hein, les histoires sont très intéressantes. C'est Boomtown, donc c'est à partir de mardi sur France 3 à 20h55. La série inédite et va avoir fort à faire parce qu'il y a quand même de la concurrence. Hein, c'est lundi soir à 20h50, c'est Série Club qui vous la propose. Et c'est étonnant parce qu'elle n'était pas au screening, donc on sait pas trop, mais enfin bon, il l'avait comme ça. Mais c'est une série qui n'a pas duré longtemps, le temps de 8 épisodes, mais quand même qui avait une particularité, c'est que a été créé par deux scénaristes, Sam Baum et Dustin Thomason. Mais du fait de leur jeune âge, 29 ans, ça fait la série la créée par les scénaristes les plus jeunes qui n'ont jamais été diffusée à la télé. Hein, c'est quand même pas mal. Alors le concept qui est vachement original de cette série qui s'appelle The Evidence, qui sera diffusée à partir de lundi 20h50 sur Série Club, eh bien c'est que c'est un police procédural, c'est-à-dire une histoire de flic qui mène une enquête, hein, là, en plus duo de flics, hein, donc le truc classique, hein, on se dit archi rebattu. Mais là où c'est intéressant, c'est que en préambule de chaque épisode, eh bien, toutes les preuves qui vont servir à l'enquête durant l'épisode sont présentées en préambule de l'épisode aux téléspectateurs. Et donc le téléspectateur n'a pas une vision passive, on va dire, hein, de ce qui se déroule, hein, du déroulement de l'enquête, c'est-à-dire au départ le meurtre ou le crime, et à la fin la résolution de l'enquête et tout ce qui se passe entre. Mais il a la possibilité, bah, avec un petit jeu de piste comme ça, eh bien de repérer un petit peu ce qu'on lui a présenté, parce que bon, on va le présenter de but en blanc différents éléments qui a priori n'ont rien à voir entre eux, et il va devoir au fur et à mesure de l'épisode, il va pouvoir repérer ces éléments et comprendre à quoi ils servent et pourquoi ils vont servir à la résolution de l'enquête. Donc c'est ça un petit peu l'innovation dans cette série qui s'appelle The Evidence, qui est servie quand même par un casting assez intéressant. Robestes.
The Evidence, Evidence c'est une preuve. Hein,
ouais,
voilà.
The Evidence c'est une preuve. Hein, Robestes dans le rôle principal avec Orlando
Jones. Dessous de Palm Beach.
Dessous de Palm Beach. Ouh. Melrose Place. avec Orlando Jones, et il y a également Martin Landau qui joue le rôle du légiste. Alors ça va péter certainement, c'est Martin Landau.
Ça me fait bizarre.
Deux épisodes, oui. Les épisodes ils s'appellent tous chaque fois l'affaire. Alors les deux épisodes, il y a l'affaire Laura Green et l'affaire Thomas Howe. C'est The Evidence, c'est à partir de lundi 20h50 sur Série Club. Concurrence il y a le lundi soir et tu m'étonnes, et alors là ça va être la concurrence impitoyable. En tout cas c'est une excellente idée de la part de Arte de rediffuser, je dis bien rediffuser parce que bon bah ceux qui sont un petit peu aficionados la connaissent déjà, mais de rediffuser dans l'ordre s'il vous plaît en version multilingue la série Regenesis. Regenesis, ah encore un petit coup. C'est sur Arte à partir de lundi 20h40. Alors, que dire de cette série, hein, ça raconte l'histoire d'une unité qui combat le bioterrorisme en général et, on va dire, les grandes épidémies, tout ce qui est un petit peu zarbe comme ça. Alors, la particularité, c'est que c'est une série canadienne et donc l'action se situe au Canada. Mais il faut savoir que le laboratoire, c'est-à-dire l'endroit où travaillent ces différents scientifiques haut de gamme, chacun technicien dans son domaine, hein, il y a un microbiologiste, il y a un hématologue, il y a un médecin, un neurologue, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs, quoi, plein de spécialistes. Ils sont financés un petit peu comme est financé l'ONU, c'est-à-dire par différents pays donateurs, quoi. Et ce qui fait qu'au niveau géopolitique, si tu veux, quoi, qui intervient dans la série au niveau des prises de décision et des trucs comme ça, parce que bon, quand il y a des épidémies, c'est des trucs qui couvrent quand même des étendues assez larges de pays. Ça peut être des États-Unis.
Enfin, comme Cuba, en général, les épidémies ne connaissent pas de frontières.
Ne connaissent pas de frontières. À un moment, ils vont en Chine. Enfin bon, ça vous le verrez plus tard, hein, dans la série, mais eh bien, ça fait que bon, bah, donne un petit piment, un petit plus, quoi, à cette série qui pourrait être vachement chiante si avec eux le côté purement médical, il faut résoudre une enquête. Mais là, il s'agit d'une enquête d'ordre scientifique, à savoir bah, pourquoi ce virus a muté et pourquoi le traitement qu'on donnait avant il marche plus, les gens crèvent, ou putain, qu'est-ce que c'est ce truc, enfin, il y a des gaz bizarres, enfin, tout ça est vachement bien, est très techniquement analysé, hein, dans le scénario. Hein. Bon, il y a les conseillers techniques très sérieux qui ont élaboré les scénarios et les dialogues. Des fois on s'y perd un petit peu quand on n'est pas technicien, quand on n'est pas chimiste, des fois on s'y perd vraiment, mais bon, c'est vraiment atténué par le fait qu'il y a plusieurs histoires à l'intérieur de différents épisodes et que ça coule vraiment très très bien. Les acteurs sont excellents, à l'image de Peter Otterbridge qui joue le rôle principal, qui est le patron, hein, de cette unité contre le bioterrorisme, et les différentes histoires, hein, eh bien, sont très très variées et posent pas mal des questions assez intéressantes, on va dire. Et le fait que l'action est située au Canada et que la plupart des membres de cette équipe sont des Canadiens, il y a une Anglaise dans l'eau, enfin bon, mais enfin bon, ce sont pas des Américains, leur permettre quelques petites pointes comme ça, pas désagréables au niveau de ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde en général. Bref, c'est brillant, c'est très très brillant, c'est Regenesis, et c'est diffusé par Arte ce soir, lundi, à partir de lundi soir, 20h40, dans l'ordre, donc, et deux épisodes pour chaque soirée. Et c'est vachement con, parce que, en même temps, le même soir, lundi soir, Sci-Fi, et ça je vous en avais déjà parlé, rediffuse Regenesis, et comme ils en sont déjà à la saison 2, c'est un petit peu dommage. Mais enfin, Sci-Fi c'est pareil, c'est également en version multilingue, c'est également lundi à 20h40.
Ouais, mais Sci-Fi, il faut s'abonner, et Arte, voilà, c'est gratuit.
I'm
ça faisait longtemps que je vous l'avais pas faite. Nip Tuck.
Oh non.
Saison 4. Et comme on n'était pas là la semaine dernière, vous avez loupé le début de la saison 4, donc hein, qui a commencé sur Paris Première. Avec là j'ai vu l'histoire avec Kathleen Turner un petit peu. Bon, c'est con parce que bon bah la télécommande, enfin le truc qui marchait pas bien, ce qui fait que je pouvais mettre la version originale mais sans les sous-titres. Alors il y a des trucs que j'ai pas vraiment tu vois, j'ai pas tout pigé quoi.
C'est quoi, c'est les termes techniques, t'as pas pigé ou les insultes des femmes hein?
Non, enfin bon, l'atmosphère en général, enfin bon, ça a l'air bien plombant quand même, quoi, avec moins d'effets spectaculaires, on va dire, mais là, peut-être carton plein donné aux guests en tout genre, quoi. Alors, j'ai vu Kathleen Turner, comme tu l'as jamais vu de ta vie, alors là, laisse tomber, on avait déjà pu l'apercevoir comme, je crois, avocate ou... procureur dans la série New York Unité Spéciale, hein. Déjà là, bon, ok, c'est plus la Kathleen Turner de La Poursuite du Diamant Vert ou autre chose, hein, ça a plus rien à voir, hein, là, ok, d'accord, hein. Quoique, il y a des déviants, mais enfin bon. Il y aura également Brooke Shields, Richard Chamberlain, Jackie Bisset, tout ça donc dans la saison 4 de Nip Tuck, programmée sur Paris Première, toujours en version multilingue. Le lundi, mais en deuxième partie de soirée à partir de 22h40.
Et sachant que la saison 3, ça se finit, ils auraient pu trouver mieux comme cliffhanger, puisque en fait c'est la résolution de toutes les intrigues des deux dernières saisons en fait.
Ouais, ouais.
Il n'y avait pas vraiment de suspension qui faisait lien avec la 4.
Dans la 4, il y a peut-être le côté le plus intéressant, enfin depuis le début de ce que j'ai vu, quoi, si tu veux, quoi, c'est le trip de la femme de Dylan Walsh, hein, qui va accoucher et tout, et l'enfant va être mal formé et tout, donc elle prend contact avec des gens qui sont mal formés, et alors ça donne des scènes assez dérangeantes, on va dire, quoi, tu vois, mais bon. Enfin, il faut
d'accord,
voir ça.
Bon.
Quoi.
Bon,
ok, j'en dirai pas plus, quoi, mais bon, c'est un petit peu glauque quand même, quoi, on va dire, quoi. Alors donc c'est tous les lundis soirs sur Paris Première. Pour public très averti, hein, quand même. Le Messager des Ténèbres, saison 2 également, donc inédite, hein, je rappelle, qui passera donc tous les mardis sur Canal Jimmy à 20h45. Le principe de cette série, dont le personnage principal interprété par Chris Kramer est un moine qui a passé un pacte avec le diable, un pacte dans lequel, eh bien, il peut sauver une âme qui va partir en enfer parce que à un moment donné elle a fait une mauvaise action et il a 48 heures pour essayer de racheter cette âme et que cette âme n'aille pas périr en enfer. Enfin, c'est un petit peu le pitch de chaque épisode et bon bah lui il va se retrouver dans la première saison on était plus centré dans le monde contemporain, c'est-à-dire des histoires qui avaient lieu dans le monde contemporain, alors que deuxième saison a l'air de se passer un petit peu plus dans des voyages dans le temps, c'est-à-dire bon, lui comme il est mort quoi, si tu veux, il est pas vivant donc bon, il y a possibilité de, tu vois ce que je veux dire ? Ok, bon.
C'est du patinage artistique cette chronique.
C'est le Messager des Ténèbres donc. Tous les mardis, c'est parce que je regarde pas trop, tu vois, comme je bouquine en même temps, quoi. Alors bon, c'est un petit peu difficile à suivre. Star Trek Voyageurs également, la saison 5. Alors moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi ils avaient pas passé la saison 5 plus tôt, vu que les saisons 1, 2, 3, 4 de Voyageurs, on les a vues il y a quand même quelques années. Ouais. Et là, ils décident de nous passer la saison 5, inédite en France quand même, de Star Trek Voyageurs à partir de mercredi prochain. Non, c'est à partir de mercredi dernier que ça a commencé. Hein, 20h45, 3 épisodes à se tartiner à la suite.
À noter qu'il y a les 6 premiers films Star Trek qui passent en ce moment sur une chaîne de balles.
Cinéfix.
Je m'y suis fait.
Ah, c'est sur FX.
Le 4e réalisé par Leonard Nimoy. Oula. C'est ouf, gaguesque. Hein.
Celui avec les baleines.
Ouais.
Ouais. Mercredi prochain, il y a du lourd, il y a du gros, il y a du tatoué, il y a du très très brillant. Certainement la série de l'année dernière, Doctor House. Bon, en concurrence avec Véronica Mars en ce qui me concerne, mais c'est certainement la série la plus brillante depuis pas mal de temps. La saison 2 à partir de mercredi prochain, donc 20h50, hein, interprété brillamment par Hugh Laurie. Que j'ai pu voir dernièrement dans comment il s'appelle ce film Stuart Little 2, ouais c'est le papa et Alisa Edelstein, Omar Epps avec un deuxième épisode mercredi prochain qui qui est catégorisé moins 10 quand même, qui s'appelle Devine qui vient dîner. Donc c'est mercredi prochain, c'est excellent, c'est génial, hein. C'est Dr House, c'est sur TF6, mercredi prochain à 20h50. Jeudi donc, il y a Missing, disparu sans laisser de trace, en concurrence avec R.I.S. On l'a vu ça en début, à 20h50 sur M6. Et c'est une série qui marche pas trop mal, hein, qui fait son petit bonhomme du chemin. On n'entend pas trop parler.
Elle a eu
pas
du mal à démarrer, mais finalement...
Elle a la série avec Vivica Fox dans le rôle principal. Saison 3, hein, quand même. Hein, ça marche bien également aux États-Unis. Avec dans le premier épisode diffusé jeudi prochain, qui s'appelle Les Portes de l'Enfer, également initialisé moins 10... avec comme invité Macy Gray. On se demandait ce qu'elle foutait, elle fait plus de disques et tout, bah on sait ce qu'elle fait maintenant, elle joue dans les séries comme guest star. Et également la saison 3 de MI5 sur Canal Jimmy à partir de vendredi prochain 22h40. Et il y a également un truc qui va péter à fond les manettes et tout pour ceux qui l'ont jamais vu, mais ceux qui sont des fans, de toute façon ceux qui regardent Farscape généralement c'est des fans, généralement sinon ils auraient décroché depuis la saison 1. Hein, c'est clair. Et cette excellente série de science-fiction initiée par Jim Henson,
oui, le créateur du Muppet Show, voilà, et voilà, de Fraggle Rock. Un truc hallucinant où tu vois même un vaisseau spatial accoucher, donc
c'est délirant. C'est vraiment très très bien foutu, hein, et ça a duré 4 saisons. Au bout de 4 saisons, c'était diffusé par FX Channel aux États-Unis.
Par Fox, oui, c'est ça, oui.
Et ils ont décidé qu'ils allaient marre, que ça le faisait chier. Alors que les fans étaient là, on redemandait que c'était vachement bien, que vraiment la série se tenait à fond les manettes.
Il faut savoir quand même que la première saison était assez lourde. Hein. Fallait vraiment accrocher, mais après,
la saison 3.
Ça y est, l'audience, ça y est, c'est installé. Maintenant, on peut faire des trucs qui va vraiment délirant. Ouais, ouais, ils sont pas privés. Quoi,
ouais. Et il y a eu, pour clore justement cette quatrième et dernière saison, il y a un téléfilm en deux parties pour clore justement l'histoire, hein, pour contenter un petit peu les fans qui étaient assez furieux. Le téléfilm s'appelle Guerre pacificatrice, ça dure 3 heures, ce sera diffusé vendredi prochain sur Sci-Fi, donc à 20h45. Hein. C'est le final après ces 4 saisons de Farscape, la série avec Ben Browder dans le rôle du commandant Crichton. Et Claudia Black, bien sûr, mais faut pas oublier Scorpio, hein. Scorpio, il est bien, Scorpius ou Scorpio, je sais pas, jamais comment il s'appelle celui-là. C'est un méchant et tout, il est méchant celui-là. Oh là là, tu peux pas savoir. Mais il y a quelques petites trouvailles vraiment intéressantes, tu vois, avec les robots qui rampent au sol, qui roulent sur le sol et tout. Il y a le mec qui a les dreadlocks en peau, là, tu vois. Enfin bon, il a pas de cheveux, mais enfin, il a des dreadlocks, mais bon, en fait, c'est des excroissances de peau, tu vois. Mais ça fait dreadlock, tu vois. Le mec, c'est un guerrier, quoi. Genre comme les Klingons, quoi, ou les mecs vraiment méchants, quoi. Enfin bon, ils ont ça en eux, quoi. C'est une race guerrière. Mais bon, bah, ça cohabite quand même, hein, dans le vaisseau mère. À présent, et là, je pense que tu vas pouvoir déclencher une alarme.
Une alerte Q, une alerte Space Girl.
Une alerte Q, à mon avis, car on va parler tout d'abord de séries qui commencent à être catégorisées moins 10, moins 12. Moins 16, rends-toi compte. De l'inédit quand même. Avec cette série moins 10, c'est une série anglaise, hein, qui sera diffusée sur MCM à partir de mercredi prochain. MCM qui au départ était une chaîne musicale. Hein. Ça vous fait rigoler ou on dit bon.
Ouais, c'est comme MTV Music Television, mais oui, mais bien sûr.
Musical.
M6 aussi est une chaîne musicale, hein. Oui,
ouais, ouais. Et qui diffuse maintenant. Enfin bon, pour ceux qui ont envie de voir l'intégral manga de Nicky Larson, de Dragon Ball Z, en ce moment il y a tout. Hein. Il y a Full Metal Alchemist. Enfin, ils te font toutes les.
Ils vont même bientôt faire mangas, du téléachat. Hein.
Ouais. Et ils ont quand même l'idée de diffuser de temps en temps quelques petites séries comme ça qui se démarquent du lot. Ce sera le cas certainement de Sugar Rush, une série anglaise diffusée par Channel 5. Et qui, Channel 5 dit on peut y aller un petit peu.
Channel 5, c'est le service public financé par la pub. Et
ouais, ouais, mais
ça y va lourd des fois.
Ouais, ouais, ouais. C'est genre on peut se lâcher la bride. C'est du côté des BBC 1-2-3 qu'il faut serrer la ceinture, qu'il faut faire vachement gaffe quand même. Enfin bon, tu vois, alors que sur les autres chaînes, allez, vas-y, on y va, font les mal. Et là, c'est le cas. Bon, le propos est quand même assez intelligent. C'est là, c'est pour cela d'ailleurs que la série dure plus longtemps qu'une saison, c'est l'histoire. Ça s'appelle Sugar Rush, la course au sucre. Hein. Le sucre comprenait une partie intime d'une jeune fille. C'est l'histoire de Kim et de Sugar, en fait, de jeunes filles de 15 ans, hein, qui vont découvrir la vie, l'autre. Et sexe.
C'est pas celle-là. C'était l'autre.
Alors la série a fait beaucoup de parler d'elle parce qu'il s'agit d'une histoire d'homosexualité féminine hein, entre deux jeunes filles mineures en plus. Oh là 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 là. Mais a vachement marché parce que musicalement il y a t'entends dans chaque épisode t'entends au moins une demi-douzaine de tubes des années 80-90 à fond les manettes. Blondie est au générique
oui.
Et les actrices sont vraiment pas trop mauvaises. Bon, c'est des actrices qui sont un peu plus âgées hein, qui dans les rôles principaux on retrouve Olivia Linen, Lenora Crichlow qui ont 23-24 balais hein, sont supposées avoir 15 ans dans la série. Également Richard Lumsden et Sarah Stewart, donc ça s'appelle Sugar Rush, c'est moins 10 hein, et c'est à partir de mercredi prochain à 20h45 sur MCM. Et un peu plus tard, vers 23h10, il y a les Arctic Monkeys en concert aux Eurocaen, le concert de cette année. Donc ça vaut le coup hein, quand même. Tu vois, de temps en temps, MCM il diffuse quand même de la musique. Tu vois. Alors il y a une autre série sur laquelle je suis tombé dessus un petit peu par hasard, parce que sur NT1, tu vois, je ne reste pas trop longtemps généralement. Et en fait, c'est une série qui avait déjà été diffusée par une autre chaîne, mais j'étais pas abonné à cette chaîne, j'avais pas pu repérer. Et il s'avère que c'est une série qui a l'air pas trop dégueulasse, une série qui surfe un petit peu sur la vague des nouvelles séries de nana qui causent de sexe, hein, Sex and the City, The L World, il y a également Desperate Housewives et tout ça, quoi. Ça tire un truc un petit peu plus libéré. On parle de cul, enfin bon, c'est ça va un petit peu plus loin. Et c'est une série canadienne en fait, ça s'appelle G Spot, le point G.
Là, je peux.
Qui est calqué, hein. Qui est vraiment calqué, on peut dire, hein, sur ces autres séries, hein, car il s'agit de l'aventure de, des aventures, on va dire, de trois ou quatre nanas. L'une est actrice, l'autre, je sais pas ce qu'elle fait, la troisième est mère au foyer, enfin plutôt rentière, on va dire, hein, son mari est plein de pognon, des trucs comme ça, et qui se racontent un petit peu leurs histoires et on les suit un petit peu dans leurs débats et leurs déboires amoureuses.
C'est
assez intéressant, c'est vachement bien foutu.
C'est pas Sex and the City, ça ?
Non, c'est pas Sex and the City, hein, c'est un petit peu plus rough, plus rentre dedans, on va dire, hein, mais avec des scènes un petit peu plus chaudes parce que c'est quand même moins 12, quoi, tu vois, quoi, donc ok, hein. Et ça permet.
Excuse-moi.
C'est une série qui permet de vérifier les si les seins sont naturels ou si vous connaissez. Ce que tu peux pas savoir dans Sex and the City, mais dans Sex and the City, elles le disent. Bon, tu sais pas si elles mentent. Sinon, dans la catégorie série c'est vraiment pour un public très 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 averti, mais c'est une rediffusion, mais alors chaque fois il faut que j'en recause, de toute façon, hein, y a pas de problème. S'agit de Oz qui est rediffusé dans son intégralité, à la suite sur Série Club. Bah ouais, y a que, hein, ils sont bons qu'à ça, on va dire, mais enfin bon.
Hein, oh, le salaud.
Non, mais il faut quand même les remercier pour ça, hein, Oz, donc, cette série. Ce sera tous les mercredis à 22h30. Donc c'est pas mal parce qu'on gagne une heure. Hein. Avant c'était vraiment plus tard qu'il a diffusé.
C'était à
23h30, tu vois. Ouais. Et là 22h30 c'est bon, on y gagne quand même un petit peu. C'est en VO hein, parce que je crois qu'ils n'ont pas fait de version française.
Mais si. Alors...
Ouais.
M6 diffusé Oz avec une VF qui était pourrie.
Ah ouais, non mais laisse tomber. Ouais, j'ai bien fait de jamais.
Ah non, alors, mince, j'étais révolté quoi. Quand
ça a été créé donc par Tom Fontana et Barry Levinson, qui avaient déjà travaillé auparavant sur Homicide. Et je vous ai noté les noms des acteurs principaux. Alors il y en a toute une tapée. Hein, le featuring est d'enfer, c'est vraiment d'enfer avec justement au niveau du de la musique. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît, David Johansen des New York Dolls. Il y a Evan Seinfeld de Biohazard. Il y a des mecs de hip-hop. Method Man hein, qui se fait trucider dans la cinquième saison, mais que tu le crois pas. Enfin bon, il y a plein de guests comme ça musicaux, mais les acteurs principaux. Qui sont des acteurs pour la plupart issus du petit écran, à exception faite de Ernie Hudson hein, qui a quand même tenu quelques bons rôles au cinéma, et à Terry Kinney, mais ce sont tous des acteurs qui après Oz, tu les as retrouvés dans des trucs pas dégueulasses, tu vois quoi, genre Harold Perrineau quoi, qui a fait Lost, Il a fait Matrix également. Hein.
Harold Perrineau, c'est le Black.
C'est le Black ouais, en fauteuil ouais, roulant ouais, dans Oz. Ouais. Et qui a son fils, qui paume son fils, qui est enlevé par les autres dans Lost.
D'accord.
Tu vois que je suis Lost quand même. Il hein. Y a Eamon Walker qu'on a vu dans Lord of War avec Nick Cage. Ouais. Kirk Acevedo, on l'a vu dans une autre, on voit dans une autre série, c'est New York Cour de Justice. Il y a Eddie Falco. C'est Carmela Soprano dans Les Sopranos. J.K. Simmons, bah, on l'a vu dans
Spider-Man.
Spider-Man dans The Closer, hein, c'est le patron oui. hein, de. Comment elle s'appelle, Mio, là.
De la blonde.
De la blonde. Voilà, c'est ça. Aussi, Lee Tergesen, lui, on l'a vu dans Wanted, la série bien bourrin, la dernière série de Spelling avec Gary Cole. Et on le verra dans la nouvelle mouture, dans la nouvelle saison des Master of Horror. Il est dans un épisode. Dean Winters, on l'a vu. Comme Billy Wong et comme Chris Meloni dans New York Unité Spéciale, seulement Dean Winters il apparaît dans les deux premières saisons. Et je crois que d'ailleurs il est remplacé numériquement par Ice-T dans New York Special Unit. Chris Meloni, bon, bien sûr. Et également Adewale Agbaje qu'on a vu dans Lost. Hein, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, c'est le Black qui apparaît dans la deuxième saison
Echo.
De Lost. Echo, voilà, Mister Echo. Voilà, tout ça, donc, sont des acteurs qu'on peut voir dans cette série Oz. Et là, pour la plupart, ceux que j'ai cités sont des acteurs qui sont récurrents, qu'on voit dans pratiquement toutes les saisons. Il y a 6 saisons au total, donc 8 épisodes par saison. Faites le calcul, c'est vite fait, c'est 48 à 48 épisodes, dont un musical dans la 5e ou la 6e saison qui est absolument à
oui.
mourir, quoi. À mourir, à mourir. Et bon, mais rassure-toi, j'attends et je suis toujours en train d'essayer de repérer comment me procurer le coffret complet des DVD. Mais bon, c'est très très difficile. Je termine avec toujours du cul. Tout d'abord, ben.
Et tu vois qu'il n'y aura pas que du James Brown.
Ah, ben, James Brown, c'est le funk, c'est. Ah. Pour vous parler des tenants et des aboutissants de ma série préférée du moment, Secret d'héritage, tous les samedis soirs sur Canal
Jimmy. C'est le truc hollandais, merde.
Ouais. Sur Canal Jimmy, donc, à 20h45, on en est déjà à la saison 2. Alors, dans les 3 épisodes qui vont être diffusés ce soir, dans le premier épisode, Frédéric accueille une amie célèbre, et donc tout le monde se met sur son 31. Tandis que dans l'épisode Psychodrame qui suit, les préparatifs pour le jubilé de la laiterie battent leur plein. Mais dans l'épisode Les Jumeaux, ben, la grossesse de Flore arrive à terme et donc elle décide de rester à la maison avec Frédéric. Mais Dan, sait-il qu'il est le père de l'enfant que Flore a en elle? Eh ben peut-être. En tout cas, la maman biologique des 3 sœurs s'est installée pas loin dans la maison qui lui a été allouée par la plus jeune des sœurs, Frédéric. Tout ça donc dans Secret d'héritage et bien plus. Ce soir, mais il faut dire que quand même, tu vois, c'est pas une mauvaise chose que Frédéric elle reste à la maison parce qu'en fait, quoi, comme c'est elle qui phagocytait un petit peu tout le pouvoir, qui prenait toutes les décisions. Que même il a fallu que Rose elle prenne un conseiller en management quoi pour que l'autre elle arrête un petit peu de déborder tu vois quoi et là maintenant qu'elle est enceinte qu'elle est grosse comme un os il n'y a pas de problème quoi c'est bon on va la laisser à la maison c'est ce soir donc dans Secret d'héritage sur Canal Jimmy à 20h45 et pour terminer ma rubrique traditionnelle la semaine sur Planète Choc. Et tout sur les docu-sexe de Planète Choc. Alors c'est en troisième partie de soirée.
Merci à la voisine du dessus.
Ouais. Alors vite fait, il y a 3 ou 4 différentes séries de documentaires concernant le sexe, surtout concernant en fait le porno et l'activité du porno cinématographique en majorité dans ces émissions, dont l'une s'appelle Sexe sur un plateau et qui propose, hein, ce sont des éléments qui font 50 minutes dans lesquels il y a différents petits éléments qui font des présentations de différents intervenants dans le domaine du X business. Sexe sur un plateau, c'est plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, à savoir ce qui se fait dans le X business traditionnel, on va dire, hein, c'est-à-dire t'as pratiquement
à l'ancienne,
pas à l'ancienne, mais enfin bon, c'est grosse tendance du moment, c'est-à-dire t'arrives pas à avoir une fille avec des seins naturels, donc pratiquement toutes
refaites,
toutes, hein, pratiquement.
Ça a été la grande mode des gros bobies et maintenant il y a que des actrices de gros
bobies. Des fois, on peut tomber sur un segment à l'intérieur de chaque documentaire qui peut être intéressant, une personne qui peut être intéressante qui dépote un petit peu du lot. Sinon, bon, il faut savoir que quand on regarde ces trucs-là, les filles généralement on dit toutes qu'elles font ça parce qu'elles aiment ça, qu'en plus on gagne du pognon et tout. Alors comme c'est vraiment le consensus général, à fond les manettes, quelle que soit l'actrice, quelle que soit sa situation, on va dire, hein, que ce soit une star, une débutante ou un wannabe, quoi, c'est un peu louche. On se dit, bon, c'est pas possible, quand même pas déconner, quoi. Enfin bon, peut-être que quand même. Alors, ce soir, 23h40, dans cette émission Sexe sur un plateau, c'est la section réservée aux coquines ce soir. Demain soir à 22h55, toujours Sexe sur un plateau, c'est vie de couple. Alors là, c'est carrément des couples qui font carrière dans le X, hein, c'est-à-dire le mec, la nana, ils expliquent que ouais, ma femme elle baise avec les autres, mais enfin bon, c'est pas de problème, et des fois je viens, bon, ok. Ou alors des fois il y en a qui font ça, mais devant la caméra, mais uniquement entre eux, tu vois, enfin bon, ils expliquent pourquoi et comment, enfin ouais, tout ça donc dans Sexe sur un plateau, demain soir à 22h55, vie de couple. Lundi, une autre variante documentaire porno avec Family Business qui est consacré à l'homme qui s'appelle Seymour Butts. Il y a un nom prédestiné, de toute façon je crois que c'est pas son vrai nom.
C'est un pseudo, oui.
Et qui lui fait plus dans la vidéo semi-gonzo de luxe, on va dire, hein, c'est-à-dire des nanas, plein de mecs, tous à poil autour d'une piscine.
Pas de scénario,
allez-y, lâchez-vous.
C'est tourner, cool. Sauter.
Et puis un mec qui passe avec des caméras, et puis on tourne, et puis voilà, tranquille. Et là, bon, c'est quand même le documentaire à longue haleine, hein, parce que bon, y a quand même 30 numéros, quoi, hein, de Family Business, et dont le numéro 22 qui sera diffusé lundi prochain à 22h30 s'appelle Un God sur mesure, suivi à 23h de Sexe sur un plateau, le numéro qui s'appelle Début prometteur. Mardi, encore du Family Business à 22h45, suivi de Sexe sur un plateau. Mercredi à 22h45, Family Business, l'épisode Un quadragénaire à la fête, suivi à 23h15 d'un autre, d'une variante un peu plus européenne, on va dire, Porn Week, qui vous propose deux numéros, Tenerife 1 et Tenerife 2. Là, il s'agit plus du X de ce côté-ci de l'Atlantique, tu vois, côté espagnol. Ensuite, jeudi, on a encore du Family Business avec Recherche acteur porno désespérément, à 22h45, suivi de Sexe, voyage et vidéo. Encore un autre type de documentaire, là également axé sur le X européen. Hein, alors là, bon, c'est l'Europe, tu vois, l'Europe unie, il n'y a pas de problème, hein, t'as toutes les nationalités. Ça qui est très intéressant, 23h20, jeudi prochain, et vendredi, alors là, c'est le point d'orgue, là, c'est, oh là là, t'as carrément la série avec à 22h30, le point G, à 23h15, Bad Girls, à 0h10, féminisme versus pornographie, à 0h40, femme à poil, poil au pluriel, et à 1h35, et alors je vous ai pas mis les autres, mais généralement après ils foutent un documentaire qui plombe bien, quoi, tu vois. Et là il s'agit de Sperminator, et en fait c'est pas un documentaire très ragoûtant, parce que c'est l'histoire d'un mec, c'est une histoire d'un toubib aux États-Unis qui a inséminé plusieurs nanas, qui les a violées et tout, pendant que qui est toubib et tout, quoi. Ouais. Je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire, quoi. Et bon, il y a même un épisode de New York
District
qui parle de cette histoire-là, quoi. Ils ont scénarisé le truc, pour te dire. Et bon, bah là, c'est l'histoire vraie, donc c'est à 1h35 du matin, donc on a le temps de faire autre chose, hein, de toute façon, quoi.
Ah, surtout à ce moment-là.
Ouais.
Tu sais qu'à partir du moment où la télévision est arrivée dans les campagnes, les couples avaient eu deux fois moins de relations sexuelles, ce qui m'étonne absolument pas. À cette heure-là, franchement, allons bon. On va peut-être se mettre en place. C'était le supplément week-end numéro 97 de Radio FMR. Bonne année, bonne santé si vous nous rejoignez. Thomas, peux-tu leur faire un résumé de ce que justement ceux qui nous rejoignent ont peut-être manqué Bêtement.
Oui, nous avons eu en direct un débouchage de bouteilles, une dégustation de galette des rois et Xavier qui est devenu roi de la radio. Non, c'est pas Arthur, c'est Xavier.
Pitié, surtout pas ça.
On a eu du drame expérimental en cinéma et en BD, de la BD sur la peine de mort, une alerte Space Girl, trois alertes Q, le retour de Nip Tuck à l'antenne et l'inévitable résumé de Secret d'Héritage.
Et si vous avez manqué le début de l'émission, eh bien sachez que vous pouvez le réécouter, vous tapez www.radio-fmr.net ou sinon vous cherchez sur Google supplément week-end FMR et MP3 ou podcast, vous pouvez vous y abonner, c'est, l'abonnement c'est pratique, c'est chaque fois en fait que je mets en ligne une nouvelle émission, hop, automatiquement vous l'avez dans votre ordinateur ou votre baladeur, comme ça vous pouvez la réécouter comme ça, tranquille, dans le métro. Et il y a aussi les chroniques textuelles des bouquins, des films. Et d'ailleurs, en ce moment, ben, il y a eu ce qu'on avait fait lors de la dernière émission. Il y a le 10 de quiz. Luc Besson va trop vite. Donc, je donnerai les réponses. Si vous voulez y jouer, ben, vous, on donnera les réponses que dans une quinzaine de jours. Donc, voilà. Je veux dire en ligne, puisqu'on les avait, on l'avait fait en direct et tout le reste. Ceci dit, nous souhaitons nos meilleurs vœux, bien évidemment, à l'écoute de Radio FMR. Peut-être que Supplément Week-end va changer en cours d'année. On verra, hein, puisqu'on a le cap de la centaine. Comme ça, ça risque de bouger. Et je veux dire, peut-être qu'il y aura de la pub dedans. Peut-être qu'il y aura des gonzesses à poil qui arriveront comme ça. Wouhou ! Et tout le reste. Non, non, je déconne.
Mais on ne déconne pas. Il faut faire saliver les auditeurs.
Ouais, t'as raison. C'est comme ça qu'on arrive à les avoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau ?
Bataille.
Ouais, mais ils ont été virés. Ah bah tiens, je vais les rappeler. Alors ciao, bye, je vous laisse avec du sport.
Ciao, ciao.